dans l'actualité des idées aujourd'hui, voyage au pays du génome. Elle utilise la génétique, sa spécialité, comme grille de lecture de notre passé. Invitée, la biologiste Evelyne Heyer, professeure en anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle, elle publie « L'Odyssée des gènes » chez Flammarion. Pour elle, les gènes sont un livre d'histoire, une machine à remonter le temps. Grâce à la génétique, elle explore la mémoire de notre passé, là où aucune archive n'est disponible, écrit-elle dans sa présentation. Bonjour Evelyne Heyer.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Un mot d'abord de votre parcours. Vous travaillez au croisement de plusieurs disciplines, de la biologie et des sciences humaines. Comment en êtes-vous venue à vous intéresser à ce génome ?
Ah, c'est intéressant. Quand j'ai découvert la théorie de l'évolution, j'ai trouvé ça complètement fascinant. Et il se trouve que la génétique, c'est un super outil pour, je dirais, utiliser la théorie de l'évolution. Et donc, j'ai commencé à travailler sur des populations humaines. Et dès les premiers travaux que j'ai faits, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait comprendre la diversité humaine qu'en intégrant à la fois des dimensions de sciences humaines, la langue, les habitudes, avec qui on se marie, si on voulait comprendre l'évolution de notre espèce. Et donc, j'ai croisé très vite la génétique et les sciences humaines.
Mmh. Alors, vous avez une jolie formule. Vous dites, mon épice à moi, c'est le sang qui coule dans nos veines. Hein. Et c'est vrai que vous êtes allé chercher ces épices. Vous êtes allé aussi explorer des cultures, des pays différents. Vous êtes une aventurière, en fait. Vous n'êtes pas une femme de laboratoire, une femme de terrain.
Oui, j'adore le terrain. J'adore aller à la rencontre des différences et je trouve que c'est en se confrontant à la différence qu'on retrouve l'humanité, qu'on voit en fait un peu l'universel autour de l'humain. Et j'ai la chance extraordinaire dans mon travail d'allier finalement la science avec ce souhait de rencontre des autres.
C'est juste un souhait ou c'est vraiment une manière de remplir vos valises et vos boîtes de données que vous allez collecter là-bas ?
En fait, on est obligé d'aller voir les autres si on veut comprendre la diversité humaine. Et du coup, j'ai la chance d'avoir pu aller dans des endroits assez improbables. Par exemple, au fin fond de la Sibérie ou en Asie centrale, juste très peu de temps après l'ouverture de ces pays. Aussi en Afrique centrale et à chaque fois de rencontrer des gens qui ont vraiment des modes de vie, des cultures très différentes et en même temps de se rendre compte en fait de cette espèce d'universel qu'on a à travers tous les humains, pour moi c'est extraordinaire. Et du coup, sur place, bien sûr, je prends l'ADN pour pouvoir le ramener au laboratoire et pour faire toutes ces études qui nous racontent l'extraordinaire aventure humaine.
Comment on prend l'ADN quand on va au Kyrgyzstan ou quand on va au Cameroun? Vous prenez une mèche de cheveux?
Non, l'ADN on le prend soit dans le sang, hein, un petit peu de sang, ou alors avec la salive. En fait, on arrive à extraire l'ADN soit du sang, soit de la salive. Donc selon les conditions, on utilise l'un ou l'autre. Voilà, parce que sur le terrain, on n'a pas toujours le choix.
Alors, quelle est la principale découverte que vous ayez faite ? On peut la résumer comme telle, puisqu'elle est au centre du livre. C'est une histoire de l'humanité, mais c'est surtout de montrer que cette histoire de l'humanité est faite essentiellement de migration et de mélange entre les populations. Ça, c'est vraiment ce que vous déployez dans cet ouvrage, ce que vous racontez comme histoire. C'était surprenant. Ça revient quand même sur un certain nombre d'idées reçues.
En fait, je pense qu'avant l'ADN, on ne se rendait pas compte que c'était à ce point-là. Voilà. C'est-à-dire maintenant, avec l'ADN, on peut retracer l'histoire des ancêtres, des individus et des populations. Et on se rend compte vraiment qu'il y a toujours eu des mélanges à différentes périodes, des mélanges plus ou moins forts par les hommes ou par les femmes. Et je crois que ce que l'ADN a amené, c'est de montrer un peu cette universalité des mélanges, d'une part, et d'autre part, qu'on a pu démontrer que dans certains cas, les mélanges ont été même bénéfiques d'un point de vue biologique, ce qui était assez inattendu.
Bénéfique, vous dites même essentiel à la survie de l'espèce. En quoi ?
Par exemple, si on prend un exemple très classique, les populations tibétaines sont adaptées à l'altitude et elles ont reçu ce bout de génome d'un ancêtre maintenant disparu qui s'appelle l'homme de Denisova. Et c'est donc grâce à ce mélange que ces populations-là ont eu un peu les gènes qui leur ont permis de s'adapter et de vivre en altitude. Et il y a plein d'autres exemples comme ça.
Et nous, on a reçu quoi, par exemple, les Français? On a des bons gènes ou pas? Vous avez pu retracer
ça? On a reçu certains gènes de Néandertal, qui certains sont bons, d'autres moins bons. Il y en a qui influeraient sur, comment dire, la survie des fœtus, c'est-à-dire le fait d'avoir moins de fausses couches, qui ont été pas mal démontrées. Il y en a d'autres qui ont l'air moins bons, par exemple la susceptibilité à des formes graves du coronavirus. Donc c'est assez mélangé. Mais après, on a reçu aussi, à l'intérieur de notre espèce, en Europe, des gènes d'autres populations. Par exemple, les populations éleveurs nomades qui ont vraisemblablement amené un gène qui permet de digérer le lait quand on est adulte. Des populations du Moyen-Orient qui, en amenant l'agriculture, ont aussi amené des gènes qui permettent de mieux digérer l'amidon, du blé, etc. Donc il y a toujours eu ces mélanges.
Alors on va en revenir à cet ADN, cette grammaire nouvelle qui nous a permis de découvrir tant de choses ces dernières années. On est en 2020. Comment on l'imaginait l'ADN à l'époque? On va écouter les mots de l'académicien et par ailleurs historien des sciences et biologiste Jean Rostand en 1962.
Eh bien, on peut dire, sans aucune exagération, que le DNA, c'est ce qui est le plus important dans le monde, en tout cas sur la Terre. Et ce superlatif est très facile à justifier. Le DNA, c'est d'abord le siège de l'essence spécifique, si on peut dire, de l'hominité. Un homme est un homme parce qu'il a dans ses chromosomes un certain DNA, c'est-à-dire une certaine substance chimique d'une certaine composition. Toute la différenciation des espèces animales, au fond, n'est qu'une différenciation de DNA. L'évolution peut être considérée comme l'épopée du DNA. Le DNA n'est pas seulement le siège de la spécificité, il est aussi le siège de l'individualité. Tous les hommes ont des DNA différents. Le DNA de Pierre n'est pas le DNA de Jacques, qui n'est pas le DNA de Paul. S'il est le siège de la spécificité, de l'individualité, le DNA est aussi le siège de l'hérédité. Nous ressemblons à nos parents parce que nous recevons des molécules, nous recevons un paquet de molécules de DNA et de la mère et du père. Chacun de nos parents nous a légué la moitié de son DNA. On peut donc espérer que cette étude du DNA pourra nous conduire à mieux connaître ce qu'on peut appeler le secret de la vie.
Alors, il avait vu tout juste Jean Rostand en 62.
Alors oui, il avait tout juste. Je pense que ce qui a progressé depuis, c'est finalement le fait qu'on puisse séquencer en entier l'ADN des individus. Et aussi, à partir de cet ADN qu'on a séquencé, retracer ce qui vient de notre père et de notre mère, qui eux-mêmes ont reçu la moitié de leur ADN de leur père et de leur mère. Et ainsi, votre ADN, finalement, avec lui, on peut retracer vos ancêtres. Il faut le voir un peu comme une mosaïque de bouts d'ADN qui ont été transmis par vos différents ancêtres. Et donc, c'est ça qu'on utilise justement pour retracer l'histoire des populations humaines. Donc, ce que dit Jean Rostand, c'est tout à fait exact. On a chacun un ADN différent. D'un autre côté, on a le même parce que on est dans la même espèce, donc on a très peu de différences entre nous. Et ces petites différences qui nous ont été transmises par plein d'ancêtres permettent de retracer finalement l'histoire de notre humanité.
Oui, vous le racontez, on est tous les descendants d'une petite molécule apparue il y a plus de 3 milliards d'années, 3 milliards et demi d'années. Il y a 4 lettres qui forment cet alphabet avec lequel est écrit le génome. 4 lettres communes à tous les êtres vivants sur Terre, ce qui paraît assez dingue. Mais l'ADN humain, est-ce qu'il se singularise? Est-ce qu'il se distingue des autres quand même?
Oui, si on compare un ADN d'un humain à notre plus proche cousin, le chimpanzé, on va aligner l'ADN des individus de ces deux espèces, c'est-à-dire on va les mettre bien face à face. Il faut voir que l'ADN, avec ses 4 lettres, on fait comme un livre. Et donc on va aligner les 2 livres, celui du chimpanzé, celui de l'humain, et on va voir qu'à peu près, il y a une lettre toutes les 100 lettres qui va être différente entre l'humain et le chimpanzé. Et donc c'est différences qui vont faire que l'on est un chimpanzé ou un homme.
Il est très très proche de nous, le chimpanzé et le singe.
Oui, tout à fait.
C'est même plus qu'un cousin, en fait, à ce niveau-là. Comment l'homme a-t-il conquis la planète? Ça fait partie des questions que vous vous posez. Comment une poignée de sapiens errant dans la savane, d'une poignée de sapiens, l'espèce humaine est-elle devenue l'espèce dominante en seulement quelques millions d'années. Chacun d'entre nous est un enfant de cette histoire collective. Il y a quatre grandes évolutions que vous travaillez et que vous analysez dans ce bouquin, l'Odyssée des gènes, qui paraît chez Flammarion, Evelyne Heyer. C'est ce devenir homo sapiens, c'est cette exploration du monde, ces migrations, c'est cette idée de dompter la nature, puis de dominer et de développer notre culture. J'aimerais qu'on reparte d'un exemple, d'une histoire très particulière et précise qui en dit long, celle de la mèche de cheveux de l'aborigène. On est en 1920, il la donne, elle sera analysée, cette mèche, près d'un siècle plus tard par une équipe. Qu'est-ce qu'on va apprendre de qui descendait-il?
Alors, cette mèche de cheveux d'un aborigène australien elle nous raconte une histoire absolument extraordinaire, parce que elle nous a permis, avec les données génétiques, de retracer quand notre espèce est arrivée en Australie, et aussi de résoudre une grande question. On se demandait si l'être humain qui apparaît en Afrique, donc Homo sapiens, va sortir d'Afrique pour aller coloniser la planète. Et on se demandait si ça avait lieu surtout une fois ou plusieurs fois, avec dans l'idée que peut-être l'Australie serait été un mouvement à part, colonisé au début, et puis plus tard les Européens et les Asiatiques. Or, la mèche, ce qu'elle nous raconte, c'est que c'est une seule sortie d'Afrique, et que donc nos ancêtres sortent d'Afrique, vont au Moyen-Orient, et il y a une partie d'entre eux qui vont aller jusqu'en Australie, et ils arrivent en Australie il y a 50 000 ans, d'après les données génétiques. Et c'est fascinant, parce que l'Australie, vous n'avez jamais pu y aller à pied. Il y a toujours eu un bras de mer d'au moins 30-40 kilomètres à traverser. Or, le fait que l'Australie était colonisée, ça veut dire qu'il y avait des groupes d'humains qui étaient organisés il y a plus de 50 000 ans et qui ont pu traverser ce détroit de mer et aller coloniser l'Australie. Donc ça, c'est pour l'histoire humaine. Et puis d'un point de vue technique, de retrouver de l'ADN dans les cheveux, c'était une première et c'était remarquable comme travail technique. C'est une équipe danoise qui a fait ça.
Et c'était quand cette première? Ça date de quand?
Oh bah de mémoire, c'était dans les 2010 à peu près.
2010-2011, hein. C'est très récent en fait.
Tout à fait. Ouais. Ah oui, on est vraiment dans une science qui avance très vite.
Il y a d'autres histoires que vous racontez comme celle-ci et qui nous éclairent une fois réunies. Peut-être juste allons sur celle de la découverte de l'Amérique. Celui dont on pensait qu'il avait été le premier à la découvrir ne le serait peut-être pas. En fait, pas tant que ça. D'autres découvertes ont été faites grâce à l'ADN. Alors qui serait le premier à avoir posé un pied là-bas?
Alors, les premiers qui ont colonisé l'Amérique, on pense maintenant, d'après les données génétiques, que ce sont des gens qui viennent du sud de la Sibérie. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce
pas
que
du
le
Portugal,
sud,
alors.
Le sud de la Sibérie, c'est la Russie. Mm. Et donc, quand j'ai eu la chance d'aller dans ces endroits-là pour travailler, il y avait le maire d'un village. Quand je lui ai expliqué que c'était vraisemblablement ses ancêtres qui avaient colonisé l'Amérique, lui, en tant qu'officiel russe, était très content de ses ancêtres. Et donc, ces premiers humains arrivent en Amérique autour de 15-20 000 ans. Là, on sait qu'ils sont passés donc par le nord de la Sibérie qui touche l'Alaska. Et au moment où la mer est assez basse, on peut passer à pied, là, au moment où on va avoir une calotte glaciaire, autour de 15-20 000 ans. Et ensuite, ils vont coloniser très vite l'Amérique, jusqu'en Amérique du Sud.
Mais pourquoi ils auraient fait ce voyage, ce grand voyage?
Alors, le pourquoi des voyages des humains, c'est fascinant. En fait, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de réfugiés économiques à cette époque-là. On est tout simplement une espèce qui a une soif de découverte, une soif d'aventure. On veut toujours aller voir la colline derrière la colline. Il y a toujours eu de tout temps des humains qui ont eu envie d'aller un peu plus loin, d'explorer, de découvrir. Il n'y a pas sur toutes ces migrations des raisons écologiques, économiques qui expliqueraient ces migrations, si ce n'est une soif de découverte.
Et ce peuple, alors j'espère que je prononce bien, hein, les Botocudos, c'est ça, Botocudos, comment on prononce, aidez-moi, à l'est du Brésil. Apparemment, le mystère des origines de ce peuple-là a été aussi résolu.
Alors, les Botocudos, c'est une population d'Amérique du Sud qui est intéressante parce qu'on trouve dans leur génome autre chose que ce qui est venu de ces premiers colonisateurs il y a 15-20 000 ans et des choses qui les relient plutôt à la Polynésie ou à l'Asie. Et donc, l'hypothèse qui est mise, c'est peut-être ce seraient des Polynésiens qui serait venu en Amérique. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est pas encore démontré, parce que il faudrait qu'on démontre que c'est avant les voyages induits suite à la découverte de Christophe Colomb. C'est-à-dire qu'ils ont pas fait le tour par des bateaux qui auraient été amenés par les Européens. Et ça, on le sait pas encore. Ça fait partie des belles questions à suivre.
Alors, on va vous raconter encore une histoire, celle de Ötzi, la momie des glaces. On va découvrir le corps d'Ötzi rejeté, remonté par la glace dans les Alpes italiennes. Qui est-il? Quel âge a-t-il? D'où vient-il? Tout ça sont les mystères de cette découverte, avec des réponses qui ont été apportées depuis. On écoute d'abord le témoignage d'un de ces découvreurs.
Je n'avais jamais vu une chose pareille. Il fallait tout de suite penser à l'organisation. La découverte devait être déclarée aux autorités de conservation des monuments historiques. C'était sans aucun doute une sensationnelle découverte archéologique. Il fallait prendre des mesures pour conserver le corps et les précieux objets trouvés près de lui. Cela posait de grands problèmes, car dans le monde entier, personne n'avait encore fait une pareille découverte. Je peux imaginer que lorsque Vella Howard Carter a ouvert le tombeau de Toutankhamon et a regardé le visage du pharaon, il a ressenti des sensations semblables aux miennes.
Ötzi, est-ce que c'est vrai que c'était le premier touriste européen?
C'est comme ça qu'il a été qualifié. En fait, c'est une histoire, je trouve, très, très belle. C'est vraiment une belle histoire des sciences. Donc, Ötzi, il est trouvé dans les Alpes. Et bon, il y a plusieurs études, ça prend du temps. Mais à un moment donné, on arrive à avoir son ADN. Et en comparant son ADN avec les populations européennes actuelles, on le trouve plus proche génétiquement des Sardes, c'est-à-dire de la Sardaigne. Et là, donc, immédiatement, les journaux s'emparent de l'affaire et disent, Ötzi était sarde et il est venu dans les Alpes. Donc, c'était le premier touriste de la préhistoire. Il faut rappeler que Ötzi, il date d'il y a plusieurs milliers d'années, une période qu'on appelle le néolithique, donc qui est une période où on a de l'agriculture en Europe. Et il a fallu attendre encore plusieurs années pour expliquer ce mystère-là. Pourquoi est-ce qu'il ressemble à des individus de la Sardaigne? En fait, c'est parce que dans l'histoire de l'Europe, il y a environ 5000 ans, donc après Ötzi, on a une arrivée massive des peuples des steppes, des peuples nomades des steppes, qu'on appelle les Yamnaya, qui viennent du nord de la Caspienne et qui vont venir s'installer en Europe et se mélanger avec les populations locales. Et ce qui fait que le génome des populations locales est mélangé avec ce génome des steppes, sauf chez les Sardes. Ils ne sont pas arrivés jusqu'en Sardaigne. Donc c'est comme si la Sardaigne, les Sardes, avaient gardé une photographie de génome ancien avant ces arrivées des peuples des steppes. Et comme Ötzi date de cette période d'avant l'arrivée des peuples des steppes, il est plus proche de ces Sardes qui finalement n'ont pas reçu de mélange de ces nomades venus des steppes. Et c'est pour ça qu'Ötzi ressemble aux populations sardes. Maintenant, en corrigeant pour tout ça, on a pu retrouver que non, Ötzi, il vient bien des régions autour des Alpes. Et je crois, de mémoire, mais il faudrait que je vérifie, je crois plutôt des régions de l'Italie.
Et est-ce qu'on peut mesurer aussi l'apport, puisqu'on parle de culture, de génétique et de culture, est-ce qu'on peut mesurer l'apport de ces migrations, de ces mouvements, typiquement sur un exemple comme celui-ci?
Oui, parce que en fait, donc je vous refais l'histoire en résumé. Donc notre espèce émerge en Afrique, on sort d'Afrique il y a environ 70 000 ans, et il y a donc des sapiens qui vont aller jusqu'en Europe il y a environ 40 000 ans. Ce sont des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire des gens qui chassent et qui cueillent. Et après, on a l'arrivée il y a environ 10 000 ans, enfin 8 000 ans pour être plus précis, d'agriculteurs qui viennent du Moyen-Orient, qui vont arriver sur place et qui vont amener l'agriculture et qui vont se mélanger avec ces chasseurs-cueilleurs, ceux qui ont peint les grottes de Lascaux. Puis ensuite, on a l'arrivée de ces fameux nomades des steppes qui vont arriver quelques millénaires après. Ce qui fait que maintenant, un individu européen dont les ancêtres viennent d'Europe est un mélange de ces trois je dirais, type d'ancêtre. Il est un mélange de chasseurs-cueilleurs européens qui ont peint finalement les grottes de Lascaux, d'agriculteurs venus du Moyen-Orient qui sont arrivés avec le blé, l'orge, vaches, chevaux, cochons, etc. Et bien sûr chèvres, et aussi des nomades venus des steppes. Et on peut retrouver dans le génome des individus actuels ces trois composantes qui font finalement le gros du pool génique de l'Europe de l'Ouest.
Est-ce qu'on sait si tous ces mélanges, ces croisements, ces rencontres se sont faites sans heurts ? Est-ce que tout ça s'est fait sur des années et aussi d'une manière assez naturelle ? Et que la question aussi de la protection, en fait, des identités, de cette tentation de vouloir les figer n'est arrivée que bien plus tard.
Alors pour la période où les agriculteurs arrivent, on voit bien que ça s'est fait petit à petit, ces mélanges avec les populations qui étaient sur place, et il n'y a pas de signe spécialement de heurts dans les restes archéologiques. De la même manière pour l'arrivée des éleveurs nomades venus de l'Est, là on a un doute parce qu'il semble que l'arrivée soit assez rapide, mais c'est pas encore clair, on sait pas encore rapide si ça a pris 100 ans, 500 ans. Il y a une hypothèse en fait que ces éleveurs nomades auraient pu arriver facilement en Europe et s'installer parce que les populations sur place auraient subi des épidémies. Mais ce n'est pas encore démontré. Mais en tous les cas, on n'a aucune trace de massacre lié à chaque fois à l'arrivée de ces migrations. C'est toujours des métissages qui se font petit à petit, plus ou moins vite selon les périodes. Mais donc, les individus qui étaient sur le territoire, par exemple en France ou en Europe de l'Ouest, sont à chaque fois des mélanges de ces différentes vagues qui sont arrivées.
Et quand on vous entend raconter cette histoire, on a quand même le sentiment que cette question des races, comme elle revient régulièrement dans les débats, est assez illusoire. Est-ce que c'est un terme qui, pour vous, correspond à une réalité biologique et anthropologique ?
Non, pas du tout, parce que dans l'idée de race, quand elle a été construite au XIXe siècle, il y avait l'idée de différence fondamentale entre des groupes humains. Et c'est pas du tout ce que retrouve la génétique. La génétique, elle montre qu'il y a très peu de différence entre les populations humaines et que notre histoire est faite au contraire de mélange, de métissage et de migration. Donc ce qui correspond pas du tout avec l'idée de race, parce que dans l'idée de race, on a l'idée de boîte étanche, on a l'idée de différences biologiques fortes entre des groupes humains. C'est pas du tout ce qu'on retrouve dans l'ADN, donc ça ne colle pas. Néanmoins, il y a de la diversité biologique. Vous avez des petites différences qui sont liées au fait de l'origine géographique différente de vos ancêtres. Par exemple, la couleur de peau qui est liée à des adaptations à l'ensoleillement dans le passé.
Et la nôtre correspond à quoi ? Celle dans ce studio, derrière les masques. Elle a une histoire aussi.
Oui, la peau blanche.
On n'a pas pris assez le soleil. C'est ça ?
Oui et non, il y a de l'alimentation, c'est pas si simple.
Ah, ça c'est intéressant, en quoi ?
Eh ben en fait, une couleur de peau plus claire permet de faire de la vitamine D quand il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement. Mais si vous avez une alimentation qui est riche en vitamine D, entre guillemets, vous n'avez pas besoin d'avoir une couleur de peau plus claire. Et donc, c'est pour ça que les Européens, les premiers, sont noirs de couleur de peau.
Avec des yeux bleus, racontez-vous.
Avec des yeux bleus, et ce, jusque fort récemment, c'est-à-dire seulement 6000 ans.
Merci. Evelyne Heger, vous êtes notre invitée jusqu'à 13h30. Vous signez chez Flammarion l'Odyssée des gènes. Et pour l'heure, il est 13h19.
France Culture. La Grande Table, Olivia Gesbert.
Evelyne Heger est notre invitée, professeure en anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle publie l'Odyssée des gènes chez Flammarion, une autre histoire de l'humanité, de ses migrations, de ses rencontres aussi. Cet ADN qui nous raconte tant de choses sur nos origines et peut-être aussi sur notre devenir. Est-ce que vous continuez à dire aujourd'hui qu'il faut le manipuler avec prudence ?
C'est-à-dire, écoutez, toutes les études qui ont toujours été faites sur la diversité génétique sont utilisables, selon la morale que l'on met derrière, d'une manière positive pour montrer que finalement on se ressemble beaucoup d'une population à l'autre, ou si vous êtes dans une pensée où vous aimez pas les différences, pour mettre en avant qu'il n'y a pas beaucoup de différences, mais qu'il y en a quand même. Donc, je pense que les études de diversité génétique humaine sont là pour poser les faits, c'est-à-dire pour dire où on en est. Mais que, après tout, la pensée morale que l'on met dessus n'est pas du ressort de ce que produit la science. C'est, pour moi, des choses différentes. Néanmoins, la diversité génétique humaine montre qu'on vient d'Afrique, qu'on a tous des ancêtres qui viennent d'Afrique, qu'on a tous des ancêtres migrants, qu'il y a peu de différence entre les populations humaines. Mmh. Donc je pense que c'est quand même des choses qui sont importantes pour réfléchir la diversité et aussi pour réfléchir la place que l'on veut laisser dans nos sociétés à la migration et aux immigrants.
Mmh. Et vous sauriez imaginer quelle place nouvelle il faudrait lui faire, ou en tout cas dans nos esprits, pourquoi il faut peut-être aussi changer nos représentations par rapport au discours assez répandu aujourd'hui sur la question des migrations.
Je pense que c'est important de rappeler à tout le monde que tout le monde a des ancêtres migrants. Je veux dire, c'est pas quelque chose de spécifique d'abord à notre période, que ça a toujours existé. Maintenant, on voit même avec des nouvelles techniques qu'il y aurait eu aussi dans le passé des migrations sur plusieurs milliers de kilomètres, ce qu'on ne soupçonnait pas avant. Par exemple, au Turkménistan, on a trouvé un individu qui vient de Suède. C'est des milliers de kilomètres. Donc, il y a toujours eu des migrations et on a tous des ancêtres migrants. Et pour ceux qui vont avoir des descendants, dans leurs descendants, ils auront des descendants migrants et ils auront des descendants qui se marieront avec des migrants. Donc, la migration est en quelque sorte constitutive de notre espèce. Si on compare, par exemple, à nos plus proches cousins, les chimpanzés, les gorilles ou les orang-outans, eux, ils sont restés sur place, ils n'ont pas bougé. Nous, on est une espèce qui est allée partout. Bon, alors, avec bien sûr le problème des dommages que l'on peut causer à l'environnement, mais néanmoins, c'est, je dirais, dans l'ADN de notre espèce, au sens propre et au sens figuré, le fait qu'on est une espèce de gens qui bougent, on a cette curiosité, on a cette envie d'aller voir ailleurs.
Les gènes, Evelyne Heyer, vous le racontez, sont une machine à remonter le temps. Sont-elles aussi une machine à anticiper l'avenir? Peuvent-elles nous aider à nous projeter? On va écouter les mots de l'auteur de science-fiction romancier Alain Damasio autour du ciseau génétique dont on va reparler juste après.
À partir du moment où le monde est vraiment anthropotechnique, la science-fiction est au cœur de ce qui se passe aujourd'hui. Et comme elle est au cœur de ce qui se passe aujourd'hui, elle peut beaucoup plus finement que d'autres genre, ou le thriller par exemple aujourd'hui, ou la littérature blanche, beaucoup plus profondément sentir ce qui va se passer, ce qui peut se passer, voilà. Et ce à quoi peut aboutir, voilà, par exemple le génisme, ou je sais pas, je prends le ciseau génétique CRISPR-Cas9, qu'est-ce que ce ciseau génétique peut produire, inventer, mettre en place, ça c'est typiquement ce qu'un auteur de science-fiction va pouvoir développer. Il va mettre en scène des personnages, un avenir, un univers dans lequel le ciseau génétique fonctionne. Qu'est-ce que ça produit? Quel type d'histoire ça génère? Qu'est-ce que ça crée, quoi? Et ça, cette faculté, voilà, à créer un monde, à créer un récit, à mettre en place des personnages, à créer cette identification au personnage qui est un moteur incroyable, affectif, incroyable de la lecture, hein. Ça fait que vous transmettez pas seulement des idées comme je le fais là, mais vous transmettez des perceptions, vous transmettez des sensations, vous transmettez des affects. Et c'est souvent à travers les affects que les idées vont passer, qu'on va comprendre certaines choses. Si je vous dis attention, le ciseau génétique CRISPR-Cas9 c'est dangereux, ou si je vous dis attention, le génisme comme vient de le faire le chinois c'est dangereux, vous ressentez rien. Si par contre je mets en place quelqu'un qui effectivement modifie son enfant et qui devient mi-temps hybride et que ça modifie énormément de choses derrière, vous allez rentrer dans le récit et vous allez comprendre. Ouais.
Alors vous aussi vous alertez, hein, Evelyne Heyer, sur les utilisations génétiques qui peuvent être faites et réalisées aujourd'hui, notamment la montée en puissance des tests génétiques pour tenter de déterminer l'origine des individus. C'est pas en soi le test qui pose problème, c'est l'utilisation qu'on peut en faire. Mais avant juste de revenir là-dessus, est-ce qu'il y a aussi une part de fiction dans votre travail, puisqu'il y a une part de génétique ou de biologie dans celui de l'écrivain de science-fiction? Est-ce que vous travaillez aussi avec les scénarios des autres, avec des intuitions comme celles des auteurs de science-fiction?
Alors, c'est vrai que moi, beaucoup de mon travail, c'est plutôt de reconstituer le passé plutôt que de me projeter vers l'avenir. Et pour reconstituer le passé à partir des outils génétiques, de la génétique, on construit des scénarios d'histoire des populations qu'on construit en fonction des données qu'il y a dans d'autres disciplines, hein, en archéologie, en linguistique, en ethnologie. Et c'est en testant ces scénarios les plus proches de nos données génétiques que l'on permet de retracer le passé. Donc moi, je fais de la science-fiction du passé, plutôt que de la science-fiction du futur, parce que bon, le futur, on sait juste qu'on est une espèce qui évolue encore, mais vers où on va aller, ça dépend de tellement de choses que je pense qu'un scientifique ne peut pas vous le dire. Il peut juste vous dire, il y a des mécanismes qui font que l'on va encore évoluer.
Mais ça vous intéresse? Vous aimeriez avoir cette réponse-là?
Ah, moi, je suis passionnée de science-fiction.
Et vous pensez que les gènes pourront un jour, ou là, notre ADN, nous informer sur cet avenir qui est aujourd'hui difficilement anticipable, mais on fait de tels progrès?
Non. Je pense pas que l'ADN sera une boule de cristal. Il nous permet quand même de définir l'ensemble des possibles. On sait ce qui est possible, étant donné notre ADN en termes d'évolution. Mais d'abord, on le sait que sur le court terme, on ne le sait pas sur le très long terme, parce que l'évolution, c'est une suite de hasard. Il faut bien se rappeler que l'évolution, c'est le hasard de nouvelles mutations, c'est le hasard du devenir de ces mutations qui font l'extraordinaire biodiversité dont notre espèce fait partie. Donc, on ne peut pas prédire dans quel sens peut aller le hasard. Mais on peut prédire que ça va changer.
Un mot, puisqu'on vous tient, Evelyne Heyer, et pour terminer sur le prix Nobel de chimie remis à la biochimiste américaine Jennifer Doudna et à la microbiologiste française Emmanuelle Charpentier, pour leur découverte sur la technologie des ciseaux moléculaires. On évoquait le séquençage de l'ADN. On est là vraiment dans la question de cet ADN qu'on peut couper pour créer, corriger. Quelle perspective d'application ça nous ouvre?
Moi, ce que je trouve super, c'est que ça va permettre, je le souhaite, de soigner des maladies génétiques pour lesquelles on connaît exactement la lettre qui est changée dans l'ADN qui créer la maladie. Pour le reste, ça va prendre beaucoup plus de temps parce que plus on connaît l'ADN, plus on se rend compte que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'un bout de l'ADN, un gène, est impliqué dans plein de fonctions, qu'une fonction donnée, il y a plein de gènes impliqués. Donc, la technique des ciseaux moléculaires qui permettent de changer finalement un bout de l'ADN, de là à ce que ça permette vraiment de faire des changements majeurs chez l'humain et qu'on puisse bien valider, ça va prendre énormément de temps. Mais pour moi, ça ouvre quand même beaucoup d'espoir sur le soin, je dirais, la capacité de guérir de certaines maladies génétiques.
Et beaucoup de temps aussi avant que le plan de route, la carte de cette odyssée des gènes que vous racontez soit réellement modifiée ou possiblement modifiable. En tout
oui,
cas.
Je pense que ça va prendre beaucoup de temps.
Merci beaucoup à vous, Evelyne Heyer, d'avoir été avec nous. L'Odyssée des gènes, votre ouvrage vient de paraître chez Flammarion. Merci. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des Idées. Merci beaucoup à Madeleine Martineux et à Anouk Delfino pour leur aide très très précieuse. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Adèle Caglar. Demain, autour de votre Grande Table, le grand photographe italien Paolo Roversi. Et puis Sartre, il ne sera pas avec nous, mais on va parler de lui, Une autre vie ou un autre récit. Ce sera avec François Nudelmann.